tous.
CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Le mardi maintenant, vous le savez, c'est le rendez-vous du libraire. C'est pour ça qu'on va parler, pour commencer, en attendant l'arrivée de Daniel Deloche et de Philippe Bernadou à ce même micro, on va parler d'un bouquin qui concerne le Tarn-et-Garonne et même le rock en Tarn-et-Garonne, puisqu'on va parler du bouquin des 25 ans du Tarn-et-Garonne qui sera officiellement lancé ce samedi 8 octobre à Moissac à l'occasion d'un concert avec alors un multiple plateau, il y a Daniel Child, Off the Clock, SWR, Splinopium, avec un représentant ici présent, et puis il y aura The 1969 Club, qui est un groupe que je ne connais absolument pas, mais je fais confiance à Jean-Luc Garcia.
Merci.
Pour la programmation. Bonjour Jean-Luc.
Bonjour Rémi.
Jean-Luc Garcia, chargé de mission des musiques amplifiées auprès de l'ADA Tarn-et-Garonne, de l'ADA 82, pardon. L'ADA Tarn-et-Garonne, tiens, je rebaptise
ça,
le truc.
Ça marche aussi. Ah.
Et puis, Jérôme Dolez de Splinopium, qu'on a rencontré déjà de nombreuses reprises sur cette antenne, ça va ?
Quelques fois, oui. Merci Rémi, oui.
Donc Splinopium sur scène samedi, c'est pour ça que t'es là, et puis tu vas nous donner un petit peu des nouvelles. Ça va nous donner l'occasion aussi d'écouter le nouveau titre de Splinopium.
Tout à fait, oui, on a fait du travail sonore, on va dire.
Parce que la dernière fois, vous étiez venu avec, c'est quoi, un album ou un 4 titres ?
Un EP, petit EP, oui. Ouais.
On commence par le Tarn-et-Garonne, 25 ans d'un tremplin rock pour l'émergence des musiques amplifiées. Enfin ouais, je dis musique amplifiée parce que il y a jamais eu trop de chansons à guitare acoustique au Tarn-et-Garonne. Ça marche, ça va.
Alors oui, là c'est intéressant justement parce qu'on rebrasse un petit peu toute l'histoire. Alors on croise en fait la 25e. Édition, puisque là, ça s'achève avec cette restitution papier qui fait suite au documentaire, avec le concert donc final du nouveau dispositif d'accompagnement cette année. Et donc, on fait d'une pierre deux coups en ayant à la fois et le livre qui clôture cette histoire, a commencé il y a presque 2 ans, et le concert avec les 4 groupes qui ont été accompagnés et le guest, donc tu viendras découvrir du rock qui vient de la Bretagne, donc ça déménage toujours un petit peu.
1969,
c'est
la Bretagne, ça.
Ouais, c'est sérieux, là. D'accord. Rigole pas, là, voilà. Donc le livre, c'est vraiment suite au travail fait sur le documentaire. Ça a été une collecte d'énormément d'informations, d'histoires, de chronologie et avec de la matière et notamment beaucoup de photos. Alors je remercie la Monique Rando qui était au tout début de l'histoire à Moissac au centre culturel et qui a fait de nombreux clichés qu'elle m'a mis gracieusement, elle m'a donné ses négatifs quoi, pour que je puisse les exploiter. Et à partir de ça, ça a été intéressant quand même de bâtir voilà une histoire. Alors assez photographique. Comme tu peux le constater.
Il y a beaucoup d'images. Vous pouvez acheter le bouquin. Il n'y a pas beaucoup de lecture. Si, il y a quand même un peu de lecture.
Alors, on met du texte, mais le propos était vraiment de compléter le doc.
Ça fait un peu album de famille, oui, ou album qui va avec effectivement le documentaire.
Donc voilà, tout se croise. Alors, le soir du concert, effectivement, c'est aussi le moment de présenter le livre. Avec mes modestes petites mains et une petite caisse, je le mettrai aussi à la vente. Alors, il y a très peu d'exemplaires, ce sera pratiquement, je pense, la seule fois presque où ils seront en vente, puisqu'il n'y a eu que 350 exemplaires édités. Et en fait, il y a une centaine qui seront réservés à la vente. Donc, c'est vraiment une vente plutôt confidentielle. Tout simplement pour que les gens puissent avoir accès aussi à cet ouvrage. Donc, on en a réservé quelques-uns pour le public. Donc, je serai derrière ma petite table, ma petite chaise. Seulement, rien qu'au changement de plateau, je ne serai pas tout le temps là. J'attends que les gens viennent vers moi pour acheter ce petit livre blanc.
Oui, il est blanc, il est joli, hein. Tarn-et-Garonne écrit en rouge et noir, en lettres rouges et noires dessus.
C'est le logo historique.
Beaucoup de photos de Monique Rando de l'époque, quelques photos du public. Donc vous risquez de vous voir, de tomber sur votre tête dans la foule avec plus ou moins de cheveux à l'époque, un pantalon plus ou moins large à l'époque.
Ou serré,
oui. Des blousons de cuir. Beaucoup de clopes, parce que ça fumait dans les concerts à l'époque.
Et oui, c'était autorisé.
Voilà, c'est un travail d'équipe ou tu as fait ça tout seul?
Alors, c'est toujours un travail d'équipe. On ne fait rien tout seul, quoi que ce soit, et que ce soit la musique ou faire un livre. Par contre, je suis un petit peu le fil conducteur et l'écriture, mais surtout ce côté rendant tout ça cohérent. Voilà, c'est vrai que j'ai dégagé des époques qui sont un petit peu arbitraires. Hein, ça ne s'arrête pas une année pile. Hein. J'ai essayé de mettre en avant des témoignages, voilà, les productions de disques à l'époque, puisqu'on éditait les CD des lauréats, tout ça. J'ai essayé de rien oublier, d'être assez large, exhaustif, pour pas zapper, voilà, voilà. Mais toutes les dates y sont, tous les noms de groupes y sont, mais tout le monde n'a pas sa photo.
Un petit peu de musique. Ah bah tiens, du coup, on va s'écouter Splinopium. Ils sont sur la scène du Tarn-et-Garonne, la grande finale. Il n'y a pas eu d'autres concerts de toute manière avant. Attends, on va pas. Ouais, non, on va pas. Je vais pas lui parler dessus. C'est samedi 8 octobre à 21h.
Riding in my pocket, walking in this dead end. My finger on the trigger, searching for a target. I hope your kingdom comes turning mine upside down. All that you'll be on when I fall down. I hope your kingdom comes turning mine upside down. All that you'll be. It's in your name.
It's in your name.
Voilà, le dernier titre de Spleen Opium, en exclu sur CFM Radio.
Tout à fait, ça a été fraîchement mixé, masterisé par Patrick Arpaillan, que je remercie vivement.
Alors, Spleen Opium, qui a profité de l'accompagnement, justement, de Tarn-et-Garonne, comment ça s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez bossé?
Tout à fait, on a bossé pas mal de choses. Ça a été... tout d'abord, de l'accompagnement scénique. On avait fait une scène au Rio Grande et on avait eu une journée d'accompagnement pour nous préparer donc à la scène. On a eu quelques formations également sur tout ce qui était communication, parce que la vie d'un groupe, c'est pas forcément que l'aspect artistique proprement dit, c'est-à-dire musical et scénique, c'est aussi tout ce qui tourne. De façon à véhiculer l'image qu'on veut véhiculer d'un groupe, c'est-à-dire comment communiquer, il y a des codes à respecter et si on les respecte pas, ça va pas. Voilà. Et puis on a surtout travaillé cette année sur l'identité sonore du groupe, c'est-à-dire il y avait un petit décalage entre le type de musique qu'on voulait faire et puis ce qu'on faisait réellement, donc le son qu'on voulait. On avait un son peut-être un peu trop rock par rapport à ce qu'on voulait. Donc.
Ce que vous voulez, c'est ce qu'on vient d'entendre un peu, ce côté un petit peu bad cave allemande des années 80.
Voilà, une inspiration un peu dark wave. Ouais. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. C'est assumé.
C'était, hein, c'était déjà ça quand même. Enfin, moi, je trouve
que c'était un peu ça, mais avec un peu trop de son rock, une guitare un petit peu trop présente, quoi, par rapport à au son. On voulait un petit peu plus moderne, un peu plus électro dans l'esprit, quoi. Voilà.
Bah, moderne, le son, on peut pas dire qu'il soit moderne, si. La sonorité, je parle. Hein. Sonorité, pour moi, c'est justement ces claviers très années 80. DX7, vous vous rappelez le DX7?
Tout à fait, oui. Ouais. Après, j'utilise pas le DX7. Hein. J'utilise plutôt des synthés plutôt rouges, sans citer de marque. Là maintenant.
Korg.
Non.
C'est quoi? Vas-y, cite des marques.
Nordlead.
D'accord. Bah écoute, tu vois, je connais pas. Moi, je suis resté au DX7 et au Korg. Ouais.
Mais c'est vrai que j'aime beaucoup le son du synthé analogique, qui permet de faire pas mal de.
C'est un petit peu la tendance aujourd'hui. C'est vrai qu'on entend ces vieux sons qui, pour nous, effectivement, sont un peu datés, mais qui en fait sont remis dans des mix qui sont beaucoup plus modernes avec. Les influences sont complètement assumées et digérées. Et d'ailleurs, ça part d'un des trucs un peu chelou à la Grimes, tout ça, enfin, tous ces trucs bizarres. Donc, il y a beaucoup aujourd'hui, pour les musiciens qui ont vécu dans le passé, le clavier, c'est des fois un peu difficile. Parce que les rockers, ils aiment bien les guitares. Et sur le clavier, c'était un peu. Mais en fait, c'est complètement aujourd'hui une coloration du répertoire. Et ça, c'est vrai que ce que dit Jérôme est intéressant. C'est-à-dire, nous, on ne fait rien, on demande juste au groupe. Où il veut aller et qu'est-ce qu'il veut vraiment faire et comment il se voit là dans le futur.
C'est prêt le set de samedi à Moissac.
Oui, y a pas mal de nouveautés d'ailleurs, parce que ce titre-là, même s'il a été enregistré récemment, c'est un titre qu'on avait travaillé sous différentes formes. Après, y a des nouveaux titres qui vont être présentés avec l'utilisation d'un peu plus de machines. J'ai fait pas mal de programmation cet été sur Mac et on va utiliser pas mal de séquences justement avec des sons un petit peu plus torturé, on va dire. Mm-hmm. Et voilà, enfin, donc ça va.
Affaire à suivre, voir sur la scène donc du Hall de Paris à Moissac. Alors, Daniel's Child of the Clock, SWR, Spleen Opium et The 1969 Club en guest. Les Bretons, tu nous as dit. Le line-up, c'est quoi? L'ordre?
Celui-là, ce que tu as cité. Dans l'ordre.
Démarrage, 21h.
Oui, tout à fait. Donc, c'est comme d'hab, l'entrée est toujours gratuite parce que le but, c'est de dynamiser la scène locale et donc le plus de monde possible puisse voir le groupe dans les meilleures conditions, parce que c'est surtout ça, c'est vraiment le Tarn-et-Garonne reste condition pro pour des groupes qui sont justement en train de devenir le plus professionnel possible dans leur projet. Et l'intérêt de cette année, comme il n'y a pas de compétition, c'est vraiment, tout le monde est là pour donner le meilleur de lui-même, se faire plaisir au public, et on cherche juste à faire une belle soirée.
Samedi 8 octobre, 21h, Hall de Paris à Moissac, la soirée Tarn-et-Garonne avec à l'entrée le livre du Tarn-et-Garonne que vous pourrez acheter. Et sachez qu'il nous l'a dit tout à l'heure, il n'y en a que 100 à vendre. Moi j'ai le mien. Ah, tu me fais une dédicace hein?
Certainement.
Acteurs locaux, chefs d'entreprise, responsables politiques ou associatifs, CFM, le MAG, tous les jours, 17h, 17h30, la vie du Tarn-et-Garonne.
Et juste après la pub, le rendez-vous du libraire.
CFM, à Moissac, 90.7, 90.7.
Vous entendez quelque chose ? Non, parce que le cancer du sein ne fait pas de bruit et se développe en silence. Alors comment savoir ? En faisant une mammographie de dépistage. C'est ma fille qui m'en a parlé. Je ne voulais pas la faire, je me sentais en parfaite santé. Mais elle m'a convaincue. Alors maintenant, je participe tous les 2 ans au dépistage parce que c'est le seul moyen de détecter la maladie à un stade précoce. Et finalement, ça me rassure.
Le 14 octobre, participez à la balade Octobre Rose, organisée par le centre de dépistage du 82. Départ 18h à Eurythmie. Venez apporter votre soutien habillé en rose pour ensemble vaincre le cancer du sein.
Si vous aimez voyager, ce message est pour vous. CFM Radio, en partenariat avec Albi Voyage, vous offre l'Europe. Les capitales européennes sont à votre portée grâce à CFM Radio et Albi Voyage pour un week-end inoubliable à deux. Pour jouer, rien de plus simple. Inscrivez-vous sur cfmradio.fr et participez au tirage au sort. Vous avez jusqu'au 20 octobre pour vous inscrire. Alors, n'hésitez plus une seconde et partez visiter l'Europe grâce à CFM Radio et Albi Voyage.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Et il est l'heure maintenant de retrouver notre rendez-vous du libraire avec aujourd'hui Daniel Deloche et Philippe Bernadou de la librairie Deloche. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être là au programme aujourd'hui. Salman Rushdie, Anne Persin, Isabelle Ebrard. Le premier, vous le connaissez tous, c'est l'auteur du mois. La seconde, c'est un coup de cœur de Daniel Deloche. Et la troisième, eh bien, nous sera présentée par Philippe Bernadou. Elle fait partie de la rubrique « Écrit d'ici ». Et on commence tout de suite par l'auteur du mois, Salman Rushdie.
Oui, effectivement, je pense que le nom est connu de tout le monde, mais peut-être pas tant pour son œuvre proprement dite que par le fait qu'il a été condamné à mort en 1989 par une fatwa de l'ayatollah Khomeini qui appelle, je cite, « tous les musulmans zélés », fermez les guillemets, « à l'exécuter s'ils se retrouvent en présence de l'écrivain ». Fatwa qui est toujours pas levée, qui a été hypocritement adoucie ou du moins annulée par le gouvernement de Téhéran, tout en sachant qu'une fatwa ne s'annule jamais. Le roman qui lui a valu cette condamnation, Les versets sataniques, est en fait une démarcation orientale de celui de Bulgakov, Le Maître et Marguerite. Roman lui-même interdit 33 ans par les autorités de l'Union soviétique d'alors. Comme quoi les crétins habitent des deux côtés du Rio Bravo. C'est une image. Avant ça, Rushdie s'était fait connaître par Les Enfants de Minuit, élu meilleur Booker Prize. Le Booker Prize, c'est un peu mieux que le Goncourt pour la littérature en anglais. Meilleur Booker Prize des 40 dernières années. Il imagine dans ce roman que tous les enfants nés à l'heure même de l'indépendance de l'Inde sont reliés télépathiquement. Pour chacun de ces romans, on peut employer les adjectifs fabuleux, merveilleux, fantastique, magnifique. Alors je vous fais un petit paquet avec, et vous pourrez les ressortir à chaque titre. Personnellement, j'ai un gros faible pour « La terre sous vos pieds ». C'est l'histoire d'une rockeuse indienne qui meurt dès les premières pages dans un tremblement de terre dans le quartier des distilleries à Mexico, noyée par des torrents de tequila. Parce que c'est ça qui fait la pâte de Rushdie, un mélange de tragique, de cocasse, une culture baignée de toutes les mythologies, de toutes les religions du monde, au service d'une description de notre temps, de ses folies, de ses espérances. C'est cette même alchimie qui est à l'œuvre dans son dernier roman, 2 ans, 8 mois et 28 nuits, dont je vous parlerai après que ma petite camarade ait fait une petite pause.
Ben voilà, c'est l'heure de finir la pause de la petite camarade. Alors, Daniel Deloche, votre coup de cœur va à Anne Persin, Sous la vague.
Oui, alors là, moi, je suis franco-française. Bertrand Berger Lafitte est l'héritier d'une prestigieuse propriété de cognac. À 50 ans, il a réussi à maintenir la tradition familiale, celle de la qualité et du « made in France ». Au prix d'une petite concession, l'ouverture du capital à des actionnaires. Mais il est quand même resté PDG. Et puis patatras, quand ce printemps 2011, le bel édifice est prêt à s'écrouler. Il vient d'y avoir la catastrophe nucléaire au Japon. Or, les clients sont exclusivement japonais. Au conseil d'administration, les actionnaires veulent logiquement prendre des mesures. Il faut fabriquer des produits bas de gamme, exporter la mise en bouteille pour réduire les coûts, chercher de nouveaux marchés, etc. Mais Bertrand s'oppose à tout changement. Il se réfugie sur ses terres, coupant tout contact. Dans son immense domaine, il se retrouve avec son chauffeur, Eddie, un mystérieux costaud tatoué, avec lequel il entretient une étrange relation de complicité, jusqu'à ce que celui-ci l'abandonne. Il y a aussi sa fille, Olivia, qui se retrouve enceinte d'un ouvrier syndiqué de l'usine. Autre trahison. Et ne parlons pas du complot de son ex-femme avec l'actionnaire principal. Quant à ces gens, les ouvriers du domaine de père en fils, les voilà qu'ils manifestent à leur tour, inquiets pour leur avenir. Et au milieu de toute cette agitation et de ces trahisons, Bertrand reste impassible. Il est même en train de découvrir le bonheur. Il a recueilli un faon blessé qu'il soigne et qui est pour lui le symbole d'une liberté que le carcan familial et les obligations ne lui ont jamais permis de connaître. Comment tout ça finira-t-il ? Je vous le laisse découvrir en lisant cette fable sociale d'une grande subtilité sous la vague d'Anne Persin.
Édition La Brune Orouergue.
Bravo.
Le rendez-vous du libraire, c'est chaque mardi un petit peu après 17h, rediffusé le mercredi à midi, en podcast quand vous le souhaitez sur cfmradio.fr. Visitez également le site des libraires, librairiemontauban.fr ou encore le site de la librairie de Loges. Vous y trouverez les coups de cœur présentés lors de cette émission, comme celui que va nous présenter maintenant Philippe Bernadou, comme il nous l'a promis au début de l'émission, 2 ans, 8 mois et 28 jours de Salman Rushdie.
Oui, il faut se mettre d'accord avant, c'est qu'un roman de Salman Rushdie est fondamentalement irracontable. C'est un conteur oriental qui emboîte les histoires les unes dans les autres. Il pratique à merveille l'art de la digression. Et celui-ci, roman, peut-être encore moins que les autres, qui se veut dans la filiation des mille et une nuits. Si vous calculez, c'est le total que font 2 ans, 8 mois et 28 nuits. Alors il faut d'abord savoir que dans un monde parallèle au nôtre, le Péristan, vivent les djinns. Pas les djinns toniques, ni les Lévis. Non, les djinns, ce sont des esprits. Certains bons, certains méchants, ou les deux à la fois, et c'est là le problème. Au temps de l'Andalousie arabe, une de leurs princesses, Dunia, est tombée amoureuse du philosophe Averroès, de son nom arabe Ibn Rushd, duquel elle a eu des centaines d'enfants. Qui ont essaimé la planète, on les appelait les Dunyazars, c'était un meilleur nom que les Rushdie, dit Rushdie. De nos jours, deux djinns malfaisants, Zabardast et Zumrud, décident d'accélérer la disparition de la race humaine par l'exacerbation des fléaux que l'on connaît, les tsunamis, les guerres, le libéralisme, j'en passe. Pour sauver l'humanité, Dunya réveille le réseau dormant de ses descendants, qu'on reconnaît au fait qu'ils n'ont pas de lobe aux oreilles, dont Gainsbourg n'en faisait pas partie, et les engage dans ce que les générations futures ont appelé la guerre des mondes. Oui, je ne vous ai pas dit, le livre est écrit dans 1000 ans. C'est un livre de science-fiction. Et pour en parler d'une manière un peu exhaustive, il me faudrait 1001 émissions. Alors, laissons la parole à Rushdie ou à un de ses personnages, Monsieur Géronimo, qui est un jardinier qui ne touche pas par terre, il l'évite en permanence, et il est entraîné par Dunia dans le monde des djinns. Même si ce monde réel n'existait pas, le sien, même si ce continuum de l'irrationnel était la réalité, le Péristan, il voulait réintégrer la fiction du réel. Et cette notion de fiction du réel, c'est tout à fait Rushdie. Ça s'appelle « 2 ans, 8 mois et 28 nuits », c'est publié chez Actes Sud, et c'est traduit de l'anglais par Gérard Medal.
Merci Philippe, on arrive maintenant à la rubrique « Écrit d'ici ».
Et oui, et curieusement, vous l'avez annoncé, c'est Isabelle Eberhardt dont je vais vous parler, qui n'est pas spécialement d'ici, si ce n'est que vient de paraître une version inédite de son texte sud-oranais, version complète non censurée, et cette version a été faite par Monsieur Kempf Rocht. Alors Rocht, vous remarquerez que c'est pas loin de Rushd non plus, on reste dans le, c'est un auteur franco-algérien et qui a établi cette édition de sud-oranais, donc d'Eberhardt, à partir d'un travail énorme d'archives, et j'espère que nous reparlerons d'une rencontre avec lui un de ces jours.
Oui, c'est un fou d'Isabelle Eberhardt. Il a écrit déjà d'autres livres sur elle, ou à travers ses écrits à elle. le personnage vraiment fascinant qu'Isabelle Hébras.
On a un peu de temps, alors s'il vous plaît, votre rubrique de l'actualité des livres que vous nommez si bien, le monde merveilleux des livres, s'il vous plaît.
De plus en plus merveilleux, et nous allons à Athènes pour une très mauvaise nouvelle, la fermeture de la librairie historique d'Athènes, qui existait depuis 120 ans, qui était un truc énorme sur 8 étages, qui était passé de 130 employés à 10 employés, et qui là, ils n'en peuvent plus, ils ferment les portes. La directrice dit qu'elle prépare à sa prochaine librairie, mais qu'elle ne l'ouvrira pas tant qu'il n'y aura pas un environnement commercial positif et stable dans son pays. Donc c'est pas demain la veille. Et bien sûr, ça nous touche d'autant plus que c'est d'une librairie qu'il s'agit, mais ça s'inscrit dans une entreprise de déculturation programmée. De sa façon habituelle, insidieuse et moins spectaculaire, le capitalisme lui aussi ses palmyres, ses manuscrits de Tombouctou, ses bouddhas de Badian dont il est responsable.
L'actualité des libraires, ça commence avec une rencontre à la Femme Renard, Daniel.
Oui, ce soir même à 19h, précipitez-vous à la Femme Renard. Vous aurez l'occasion de rencontrer Carlos Salem, un auteur espagnol, qui qualifie son roman le plus jeune fils de Dieu, qui vient de paraître chez Actes Sud Noir, d'évangile de bière fiction. L'auteur continue d'annoncer la bonne nouvelle du roman noir avec ce récit de serial killer qui élimine qui ? Qui élimine des stars de la télé-réalité. Donc ça a du bon, effectivement.
Ce soir à 19h à la Femme Renard. Et puis le jeudi 6 octobre, Philippe.
Et puis jeudi 6 octobre, de 19 à 22h à la Mémo, nous restons dans le roman noir, mais nous passons en Italie. Le roman noir italien qu'on appelle le giallo, c'est-à-dire le jaune, contrairement au roman noir chez nous, autour d'une rencontre avec Sandro Bonvissuto, dont le premier roman dedans est très remarqué. Et c'est animé par Jean-Marc Laherrère, blogueur et spécialiste du polar.
Voilà, puis on se quitte en rappelant que le fenestru du Bollegaire est toujours ouvert en face de la maison du Crieur, rue d'Elie. Vous pouvez y déposer les livres ou en prendre, c'est gratuit. C'est ça le partage aussi.
Tout à fait.
Avant de se quitter, vous nous rappelez s'il vous plaît les titres des ouvrages que vous nous avez présentés aujourd'hui.
L'auteur du mois, c'était Salman Rushdie à l'occasion de la parution de son roman 2 ans, 8 mois et 28 nuits chez Actes Sud. Et je vous ai parlé, écrit d'ici, Isabelle Eberhardt, une version inédite sud-oranée présentée par M. Kempfrost.
Et moi, je vous ai parlé d'Anne Persin, ou Anne Persin, je ne sais pas comment il faut dire, Sous la vague, qui est paru à la Brune au Rouergue.
Merci, à la semaine prochaine.
À mardi prochain.
Mardi. C'est...